action pour le logement abordable et durable. À l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2025, Action Logement donne la parole aux élus locaux.
Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau d'Action Logement au Salon des maires et des collectivités locales 2025 dont vous connaissez le thème qui est le meilleur en commun. C'est justement ce qu'on vous propose sur ce plateau. Comme chaque année, vous le savez, Action Logement est présent sur le salon au plus près des élus, des partenaires, des parties prenantes et des filiales du groupe pour échanger sur les enjeux qui font votre quotidien. Dans ce podcast, donc, priorité à la parole des élus au terrain pour des retours d'expérience et des solutions innovantes, une manière, vous l'aurez compris, de partager avec vous notre mission d'utilité sociale. On va partir dans le Val-de-Marne avec vous, Christelle Nias, maire de Villeneuve-Saint-Georges.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Valérie Debord, vous êtes la directrice générale de l'ONV, l'opérateur national des ventes. Et on va justement parler notamment de vente HLM comme un levier important de ce fameux parcours résidentiel qui concerne tous les maires, tous ceux qui sont venus nous en parler avaient cette attention particulière. Mais avant, je serais ravi que vous puissiez me faire découvrir un peu mieux votre commune en quelques mots, en mode carte postale. Si on a encore qui ne connaissent pas Villeneuve-Saint-Georges, ça ressemble à quoi et c'est où ?
Villeneuve-Saint-Georges, une ville, une petite ville magnifique dans le sud du Val-de-Marne, 35 000 habitants. 35 000 habitants, une ville qui a un cœur historique, peu de gens le savent, mais Villeneuve, c'est la ville neuve construite autour du Cavalier de Saint-Georges, donc on a un vrai patrimoine, une petite église, son clocher, la place Solferino, donc qui nous rappelle ces centres anciens, comme on aime les connaître un peu sur le plateau Briard, qui n'est pas très loin de chez nous. Et puis petit à petit, au fur et à mesure du temps, notre ville, elle s'est construite le long du rail, puisqu'on a un site ferroviaire, un site industriel de plus de 20 hectares, avec tout le quartier de Villeneuve-Triage, donc c'est aussi une histoire autour du voyage, hein, Villeneuve-Saint-Georges, 8 km le long de la voie ferrée, la Nationale 6, très connue pour sa Nationale 6, très passante, un point noir en termes de trafic routier, mais une fois que vous avez passé ça et que vous rentrez à l'intérieur des terres, vous découvrez une ville avec l'identité de nos banlieues, des maisons en meulière, avec encore un équilibre en termes de logement social et du pavillonnaire, donc un beau patrimoine et qui mérite d'être valorisé. Et moi, tout l'enjeu en tant que maire aujourd'hui de ma ville, parce que vous avez compris que j'aime ma ville, c'est de faire en sorte que nos familles s'ancrent et aiment autant la ville que moi je l'aime.
Quelles sont les caractéristiques de votre population aujourd'hui ? Est-ce que c'est une ville, est-ce que c'est à la fois une ville de banlieue, en périphérie, mais en même temps déjà un peu à la campagne, parce qu'il y a certains aspects ? Comment est-ce qu'on garde à la fois son identité et quelle est la population qui compose votre commune ?
Une ville très passante et surtout une ville qui s'est beaucoup rajeunie avec le temps. Beaucoup. On a une population qui est très jeune, beaucoup de familles monoparentales. J'ai beaucoup d'enfants, je dois construire beaucoup d'écoles, hein, vous comprenez ? Donc ça me coûte cher mes familles, mais avec un grand plaisir, parce qu'il faut construire forcément des équipements publics, écoles, équipements sportifs. Il faut agir sur toutes les thématiques d'accès, d'insertion, du périscolaire. Enfin, c'est un très gros investissement pour les maires d'investir et de faire bien grandir nos jeunes. Et il n'y a rien de plus dur pour nous que de les voir partir. Donc il y a un vrai enjeu sur la création d'un ancrage, ancrer nos familles sur le territoire. Moi, mes familles, elles me disent souvent, une fois qu'on a grandi, on aime notre ville, on aime notre territoire, mais on ne trouve pas. On ne trouve pas de logement. Quand on commence à rentrer dans des problématiques de décohabitation, ils sont obligés de quitter papa, maman pour aller dans la ville d'à côté ou un peu plus loin, de s'éloigner encore, alors qu'on est aux portes de Paris, ça aussi. Pour trouver du travail aujourd'hui, avoir des transports en commun, nous on a la gare de RERD et bientôt le câble 1, le 13 décembre inauguration, premier téléphérique d'Île-de-France.
Une belle aventure, ça, certainement.
Très belle aventure, oui.
Ça va
oui.
Vous permettre quoi, de décloisonner, de permettre d'aller...
De désenclaver loin. Des quartiers, exactement. J'ai tout le quartier du Plateau, parce qu'on a une ville qui est Villeneuve-la-Montagne, ça s'appelle la restauration. c'est dire. Il faut avoir un petit peu de cardio quand on traverse la ville. Et sur le plateau, effectivement, on a tout un quartier qui pour beaucoup, comme on a beaucoup de trafic, du trafic de déport aussi de la Nationale 6, qui est très difficilement accessible ou c'est difficile de sortir du quartier si vous n'avez pas de véhicule. Puis j'ai envie de dire, c'est aussi la problématique de toutes les banlieues. Quand on est en banlieue parisienne, les réseaux de transport en commun sont construits en étoile et de telle manière qu'ils sont faits pour aller sur Paris et non pas pour circuler en banlieue. Donc ce câble 1 va nous permettre d'aller vers d'autres zones d'activité économique et de traverser les villes voisines beaucoup plus simplement.
Donc ce que j'entends, c'est aussi ce qu'on appelle le fameux parcours résidentiel. C'est-à-dire que vous voudriez qu'il y ait pour chaque temps de la famille, de la vie et des logements adaptés qui vous permettent de fidéliser Dans ces envies de parcours résidentiel, il y a souvent la notion d'accession aussi à la propriété qui est particulièrement compliquée. Mais il y a justement des opérations dont on va parler ensemble. C'est que dans les zones tendues comme la vôtre, et notamment pour les ménages modestes que vous évoquiez, il y a la vente HLM qui existe. Pourquoi est-ce que vous avez commencé à regarder ce processus et pourquoi c'était intéressant pour votre commune ?
Alors c'est très intéressant comme levier chez nous parce que tout simplement j'ai un tiers, 34% très exactement de la population. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai beaucoup de familles monoparentales, des familles très jeunes et un tiers pardon, de ma population, 34% qui vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est dire d'un point de vue social c'est un public que les banques en termes d'accession regardent très peu. Voilà, si on veut dire les choses de manière un peu rude, mais qui correspond à une réalité. Donc pour toutes ces familles, l'accession à la propriété, c'est un rêve qui est inaccessible. C'est impossible pour ces familles de pouvoir un jour se constituer un patrimoine, céder à leurs enfants. Et pire, quand on accède à la propriété, pour certaines, on oublie parfois que la vie d'un bien, c'est aussi gérer la copropriété. Tant et si bien que nous-mêmes, collectivités, on est obligé d'abonder dans certaines de nos collectivités dans des opérations de renouvellement urbain pour les accompagner. Donc c'est dire les besoins et la difficulté qu'il y a dans la constitution du parcours résidentiel. Alors en ça, pour ancrer les familles, pour les aider, les accompagner à se constituer du patrimoine, les dispositifs qui nous sont proposés par des partenaires comme l'ONV, c'est redoutable.
Efficace et ça répond à beaucoup d'enjeux. Alors justement, je vais me tourner vers vous, Valérie Debord, directrice générale de l'ONV, opérateur national des ventes, sur ce système un petit peu, la vente HLM qui est parfois... soit un peu compliqué à comprendre, soit qui politiquement n'est pas toujours facile à faire passer pour des tas de raisons. Pourquoi aujourd'hui c'est à la fois une vraie opportunité et à quoi ça correspond ? Qu'est-ce que ça résout aujourd'hui comme problème spécifique dans le cadre de ce parcours résidentiel justement ?
Alors Madame le maire l'a très bien dit, avec des populations qui ont des revenus qui sont relativement faibles, pour leur permettre justement d'avoir du salaire différé, c'est-à-dire du salaire quand elles seront à la retraite, pour leur permettre d'avoir une dévolution successorale vis-à-vis de leurs enfants, leur permettre de devenir propriétaires, c'est la meilleure solution. Un loyer que vous n'aurez plus à payer, donc des revenus supplémentaires, et puis s'ancrer dans sa ville qu'on aime, sa ville sur laquelle on a envie que ses enfants grandissent. Et l'opérateur national des ventes rachète en bloc des immeubles, les remet à niveau, ça c'est très important aussi, c'est-à-dire qu'on fait des travaux pour atteindre le niveau d'étiquette énergétique C. Ça veut dire qu'on aura aussi une garantie de facture qui ne sera pas très importante et ça valorise aussi le bien qu'on va acquérir. On fait aussi des travaux de résidentialisation pour permettre effectivement d'avoir un immeuble plus beau, plus agréable, plus accessible. Et surtout, notre garantie, c'est que le futur propriétaire n'aura pas de travaux gros, importants pendant les 5 années où il va devenir propriétaire. Et ça, c'est essentiel. C'est comme l'a très bien dit aussi Madame le maire, quand on devient propriétaire, eh bien, on a aussi des charges de copropriété et souvent les locataires qui ont été dans le parc HLM n'ont pas la connaissance de cela.
Et puis on sait aujourd'hui que les copropriétés c'est l'endroit qui est le plus difficile en termes de rénovation notamment.
Lutter contre la paupérisation et la fragilité des copropriétés c'est inhérent à l'opérateur national des ventes qui a été créé par la loi Elan qui a cet objectif là. Et c'est vrai que nous on investit beaucoup d'argent pour cela et dernier point, quand on revend avec une décote pour les locataires occupants de 20%. Donc on revend en dessous du prix du marché. Ça veut dire qu'on donne toutes les possibilités, toute l'opportunité de grandir, vieillir dans cette belle ville de Villeneuve-Saint-Georges.
C'est à la fois un levier en fait, d'accession sociale, mais aussi un élément de la mobilité au sein des effectifs et du parc social.
Tout à fait, parce qu'en fait, les bailleurs sociaux à qui on rachète, ça leur permet en fait, de réalimenter leurs fonds propres et donc de réinvestir sur la commune pour réhabiliter ou reconstruire. Donc c'est complètement vertueux, tant sur le champ du parcours résidentiel que sur le champ de la reconstruction.
Ce qu'il faut préciser, je reviendrai tout de suite après vers vous, Madame le maire, c'est que, évidemment, vous pourriez le faire tout seul, vendre, mais il faut l'autorisation du maire et c'est du coup une discussion qui s'instaure sur ce qu'on en fait, comment ça se passe, etc. derrière.
C'est évidemment essentiel d'avoir des élus qui sont dans cette dynamique volontariste et qui ont la préscience que le parcours résidentiel va libérer des logements et va permettre de reconstituer l'offre. Et c'est vrai que c'est tout le dialogue positif qu'on entame, notamment avec des communes comme celle de Villeneuve-Saint-Georges et avec beaucoup d'autres.
Je disais qu'il y a parfois des problèmes peut-être soit de compréhension, soit d'acceptation stabilité politique, parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir l'impression de vendre comme si on réduisait le parc locatif. Et puis, qu'est-ce que vous répondez à ça? Pourquoi c'est important? Et comment est-ce que vous intervenez, j'allais dire presque quelque part, comme médiateur vis-à-vis aussi de celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas ce que c'est que l'accession, pour leur faire comprendre les bénéfices possibles?
Je crois qu'il y a... Vous savez, moi, j'entends tout chez moi. C'est un vrai sujet sur cette question-là, parce que on m'accuse de vouloir gentrifier ma ville. C'est le premier argument qui arrive. Moi, je parle des conditions de dignité, de vivre dignement dans son logement. Aujourd'hui, avant qu'on arrive sur des parcs de logements sociaux qui sont achetés par des bailleurs, qui ont les reins un peu plus solides, il faut savoir qu'avant, on était sous le dispositif d'office d'HLM géré par les communes. Et qu'on était, sur des... En tout cas, chez moi, sur des logements dans lesquels on a relativement peu, voire pas du tout, investi. Et on se trouve face à des choix, à devoir faire des choix aujourd'hui. On a des bâtiments qu'on doit faire tomber parce que les conditions de vie ne sont plus acceptables. Quand vous êtes dans des... je pense à un projet très clairement chez moi, vous êtes dans une tour de grande hauteur dans lesquelles les gens, ce sont des passoires thermiques, des passoires phoniques. Tout ce qui est assainissement, ce n'est plus viable. Les sols, c'est sur de la sablière, donc ça commence déjà à être... En termes de sécurité, on est très inquiet. Donc je pense qu'il y a, avant d'en arriver là, parce qu'il faut aussi penser... C'est heureux pour personne de se dire qu'à un moment donné, on va démolir, reconstruire. Les familles sont là depuis 1956, donc c'est toute une vie, c'est toute une histoire, c'est leur patrimoine, elles se sont appropriées la vie, elles ont tous leurs souvenirs. Donc avant d'en arriver là, il y a peut-être une étape. Et peut-être qu'on peut se dire que dans un parcours de vie, on peut peut-être avoir envie aussi de se constituer, de devenir propriétaire, de transmettre à ses enfants ce qu'on a vécu, avant que le patrimoine ne se dégrade complètement, entrer dans un travail de réhabilitation. Aujourd'hui, sur certains patrimoines, le coût de la réhabilitation est 2 à 3 fois plus cher que de faire du neuf. Donc, c'est simplement une aberration. Donc on est obligé vraiment de demander à nos familles de muter sur d'autres logements, sur la ville, pour pouvoir accompagner ce parcours résidentiel. Donc pour éviter d'avoir à en arriver là, même si les villes doivent évoluer, peut-être qu'il y a cette étape intermédiaire qui est de faire vivre le bâtiment, de faire vivre le bâti, de le réhabiliter, de lui redonner à lui aussi sa dignité, parce que ça fait partie aussi du patrimoine architectural de la ville. Et ensuite, surtout pour nos familles, leur donner des conditions de vie dignes. J'insiste vraiment sur cette partie-là. Et je crois que surtout sur les villes populaires, aimer les gens et la dignité, c'est de leur donner les moyens de sortir de la dépendance que représente le fait d'avoir un loyer à donner tous les mois. À un moment donné, quand vous êtes propriétaire, vous n'aurez peut-être que les travaux à faire dans votre bien, vous le céderez à vos enfants, et puis peut-être qu'un jour, bon, moi je vais te les garder, vous avez compris. mais peut-être qu'à un moment donné, ils pourront aussi faire le choix de le céder, de le transmettre.
Donc c'est quelque part aussi un élément à la fois de transition et de préparation pour anticiper et de se projeter, mais aussi j'y vois quelque chose de l'ordre de la mixité sociale auquel vous êtes attentif. C'est un moyen de, au contraire, peut-être mieux répartir le fonctionnement, l'équilibre sur votre commune.
De recréer de la mixité sociale, c'est fondamental. C'est fondamental. On a vraiment besoin de recréer de la mixité sociale sur nos territoires. Et quand on aime son bien, on en prend beaucoup plus soin. Voilà.
C'est pour ça qu'on voulait aussi vous entendre et parler de cette belle opération et de cette belle outil qui est la vente HLM, justement, comme un élément de levier de parcours résidentiel. Merci, Madame le maire, d'être venue nous en parler. Merci. Valérie Debord d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle continuation de journée sur ce salon. Je vous rappelle que ce podcast sera diffusé sur Radio Imo et Radio Territoria. Et je vous souhaite une belle journée. Merci, au revoir.
Merci, à bientôt.
En action pour le logement abordable et durable. À l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2025, Action Logement donne la parole aux élus locaux.